Good Morning Business, le grand entretien.
Il est 7h45 sur BFM Business et sur AMC Life. Notre invité ce matin, c'est Thomas Ménager. Bonjour.
Bonjour,
vous êtes député du Loiret, vous êtes vice-président de la commission des affaires sociales, conseiller régional du centre Val-de-Loire. On a plein de choses à se dire ce matin. Je vous ai entendu dire sur une autre antenne que le Rassemblement National est en tête chez les chefs d'entreprise et dans les milieux économiques. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est quoi les remontées de terrain qui vous font dire que vous êtes en tête dans les milieux économiques?
Alors, c'est pas les remontées de terrain au doigt mouillé, c'est les derniers sondages qui montrent que depuis un certain temps, les chefs d'entreprise, alors peut-être les TPE, les patrons de PME, de TPE,
ouais,
ont évolué dans l'image qu'ils ont du Rassemblement National. Peut-être qu'on a aussi fait évoluer notre programme, on l'assume ces dernières années, en faveur des entreprises, en étant beaucoup plus pro-business, en expliquant un message clair, c'est que si on veut pouvoir continuer à garder notre modèle social, continuer à avoir de l'argent public magique, il n'existe pas, c'est avant tout de l'argent privé. Et donc pour cela, il faut pouvoir aider nos entreprises, réindustrialiser, accompagner ceux qui créent la richesse en France.
Mais ça veut dire quoi être pro-business? Parce que moi, quand je vous entends défendre la retraite à 62 ans, défendre la taxation des super-profits, parler de l'Europe, je me dis c'est incompatible. Il n'y a pas de chefs d'entreprise qui peuvent pousser ça. Tous les jours, nous, on essaye justement de parler de baisse des dépenses publiques, de voir à quel point le fait d'être plusieurs en Europe, on est plus fort que tout seul. Du coup, qu'est-ce qui marche, selon vous, auprès des chefs d'entreprise?
Alors, nous, on assume totalement d'avoir deux jambes, d'avoir une jambe et de vouloir maintenir notre modèle social, mais de pouvoir donner aux entreprises la possibilité d'investir. Et ça passe par ce que l'on propose en matière de fiscalité. Nous, on propose de supprimer les impôts de production. On est le pire pays en Europe en termes d'impôts de production. On sait que c'est un boulet au pied des entreprises.
Supprimer, carrément.
Ah oui, l'ensemble des impôts
supprimer
de production.
Supprimer les impôts de production.
Les trois principaux, c'est 3S, CFE, et j'en oublie un ce matin,
CVAE.
Voilà, la CVAE. Nous l'avions fait aussi dans le cadre des débats budgétaires. On avait obtenu la suppression de la C3S à hauteur de 4 à 5 milliards d'euros. Aujourd'hui, il y a nécessité aussi de faire une amélioration en matière de ce qu'on pourrait appeler une forme d'impôt sur le papier, c'est-à-dire toutes les normes. On sait que c'est 3,5 à 4 points du PIB, du produit intérieur brut, qui sont au final tués.
Donc vous cassez tout, vous êtes ultra-libéral,
non,
pas d'impôt de production, on supprime les normes,
mais
on garde le modèle social.
Il ne faut pas être caricatural sur les normes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on le sait très bien, il y a des normes qui sont utiles pour protéger l'environnement, pour protéger la santé public, mais il y a aussi un certain nombre de normes qui sont là juste pour être un boulet au pied des entreprises. Et on le voit, il y a ce sommet de Choose France, on y viendra peut-être, mais on voit que c'est beaucoup plus simple de faire un projet industriel quand on traverse le Rhin, quand on va dans d'autres pays européens, parce qu'il y a une complexité administrative en France et des normes qui ne sont pas utiles.
Du coup, je vais venir à Choose France dans un instant sur les investissements étrangers, mais du coup, vous dites maintenir le modèle social, ça veut dire ne pas baisser les dépenses. On voit encore ce matin...
Voilà, Si, mais c'est pas parce que vous maintenez par exemple le modèle social sur la question des retraites que vous n'allez pas couper dans les dépenses.
C'est le plus gros morceau, les retraites. Hein. Si vous touchez pas aux retraites, ça sert à rien de discuter.
Il y a d'autres sujets, bien entendu. Les retraites, c'est un point important, mais il y a d'autres éléments de dépenses publiques en France. C'est-à-dire, il y a tous la question de l'administration, la suradministration, la bureaucratie, les agences. On sait que c'est 80 milliards d'euros par an. Alors, il faudra garder un certain nombre de ces dépenses, mais il y a des économies à faire sur le domaine. Il y a aussi des mauvaises dépenses publiques, et nous l'assumons. C'est pas un tabou, c'est aujourd'hui la question du coût de l'immigration, c'est-à-dire de privilégier les Français par rapport à des personnes qui n'ont pas la nationalité française, aussi en rééquilibrant, aussi avec...
Mais vous ne touchez pas aux retraites et vous ne touchez pas aux dépenses de santé. Donc en fait, vous prenez des
mais
tout
parce que,
petits...
Parce qu'on ne demandera pas des
tout
efforts
petits montants
français.
Face à des choses
non, mais,
spectaculaires.
C'est cumulés, ce ne sont pas des petits montants. Et en fait, je pourrais vous aligner un certain nombre d'autres économies sur l'aide publique au développement, sur le coût de l'Union européenne,
là, en fait,
sur la fraude fiscale et la fraude sociale. Et que aujourd'hui,
vous dites on est libéral, mais on est aussi socialiste. Donc c'est compliqué,
non,
en fait.
Est-ce que vous êtes dans des caricatures voilà, aujourd'hui, c'est pas un gros mot de vouloir dire qu'en France, on a un modèle social qui protège. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des abus, qu'il n'y a pas de l'assistanat,
ah oui, qui protège,
qu'il n'y a pas des gens qui aujourd'hui ne travaillent pas, mais plutôt que de faire peser les efforts sur quelques-uns qui bossent dans notre pays aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui ont bossé toute leur vie, les retraités ou ceux qui bossent aujourd'hui, on va faire travailler plus de monde, recréer de l'emploi, parce qu'aujourd'hui il y a 5,5 millions de chômeurs, et plutôt que faire bosser ceux qui bossent déjà énormément, on va essayer de faire bosser ceux qui soit ne veulent pas travailler, soit ne trouvent pas à travailler.
Alors, sur le sommet de Choose France, c'est lundi, il y aura encore ce grand raout à Versailles où on attend pas mal d'investisseurs étrangers, on attend 200 à peu près chefs d'entreprise. Vous dites quoi? Vous dites bienvenue, on vous attend, investissez dans notre pays. Qu'est-ce que vous dites par exemple aux investisseurs chinois qui regardent de très près, notamment pour investir sur des usines de véhicules électriques? C'est quoi votre message?
Bien entendu, on accueille tous les investisseurs, tous ceux qui veulent venir créer de la richesse, de l'emploi en France, avec un certain nombre de limites, c'est-à-dire il ne faut pas que ça soit forcément un pillage de notre savoir-faire, une nouvelle étape parfois où on va prendre le contrôle d'un certain nombre d'entreprises et sans créer réellement de nouveaux emplois, de nouvelles usines, et avec le risque progressivement que le centre de décision étant évolué, partant à l'étranger, nous n'ayons plus la main, et avec des nouvelles délocalisations, des nouvelles fermetures d'entreprises. Mais aujourd'hui, bien entendu, il faut ouvrir grand les bras. Mais vous aurez beau faire beaucoup de communication, si derrière vous n'avez pas vous avez un coût du travail qui continue d'augmenter, si vous avez des impôts qui continuent d'augmenter, vous avez des normes qui continuent d'augmenter, et que vous n'êtes pas à contrario dans une amélioration en fait de ce qui peut donner aux entreprises l'envie d'investir, ça ne créera pas réellement d'emplois. Et on le voit, il y a eu un certain nombre d'investissements, on est bien placé, mais quand on regarde dans le détail précisément, on se rend compte que le nombre d'emplois créés, on est à 34 par projet, quand dans d'autres pays comme au Portugal, on est environ à 93 emplois créés par projet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont peu d'emplois industriels, ce sont des emplois souvent dans le secteur des services, dans du tertiaire. Or, ce que l'on veut aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce sont des emplois créateurs de richesses, donc des emplois manufacturiers, donc des emplois industriels. Et là, peut-être, malheureusement, c'est triste de voir que le monde change totalement, les investissements chinois pourront être une piste peut-être pour recréer un certain nombre d'emplois sur notre territoire.
Donc vous dites oui pour les investissements étrangers, mais j'ai l'impression à vous entendre que vous caressez tout le monde dans le sens du poil. Alors, sauf la question de l'immigration, mais c'est-à-dire que vous refusez de dire aux Français qu'il va falloir faire des efforts, qu'il va falloir réduire une partie des dépenses. Vous ne voulez pas aller sur le terrain du sang et des larmes, en fait.
Mais pourquoi ? Parce que peut-être qu'un jour, malheureusement, la situation sera tellement catastrophique qu'il faudra le faire. Mais vous ne pourrez pas demander des efforts aux Français qui bossent, qui triment, qui sont déjà les plus imposés d'Europe, des pays de l'OCDE, que l'État n'aura pas fait un effort en diminuant sa propre dépense publique, en ayant un certain nombre de dépenses qui ne sont pas utiles, qui ne servent aujourd'hui pas concrètement le pays, et quand vous n'aurez pas demandé des efforts à ceux qui n'ont pas la nationalité française, quand vous n'aurez pas demandé encore des efforts à ceux qui ne bossent pas dans notre pays. Donc on a une solution de facilité en France, c'est qu'il y a des honnêtes gens, des gens qui bossent, des chefs d'entreprise, des salariés, ils payent, ils triment, ils se taisent, et on continue de taper sur eux, quand d'autres, eux, on les épargne toujours.
Il nous reste une minute, j'aimerais juste qu'on parle du financement de la campagne, parce que le président de la FBF, Daniel Ball, qui est aussi le président du Crédit Mutuel, a proposé à ce micro de créer une banque de la démocratie, parce qu'il dit que ce n'est pas aux banques de porter le risque pour la campagne, il considère que ça doit être extérieur, soit par des PGE, soit par une banque de la démocratie. Et qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui, et quels sont les contacts que vous avez au Rassemblement National pour le financement de la campagne présidentielle?
Malheureusement, pour le moment, à ce jour, alors que le sondage d'aujourd'hui montre qu'on est en tête au premier tour, gagnant dans la quasi-totalité, je crois, voire la totalité des configurations au second tour, le premier parti de France n'est pas financé. C'est-à-dire qu'on a contacté toute, je crois, ou la quasi-totalité des banques françaises, la quasi-totalité des banques européennes, et nous n'avons, pour l'heure, aucun retour. La question de la Banque de la Démocratie, bien entendu, elle est sur la table. Elle est sur la table depuis maintenant depuis 2017, puisque celui qui avait proposé ça, c'était Emmanuel Macron. Et voilà.
Aujourd'hui, c'est une bonne idée ou pas ?
C'est une bonne idée s'il y a une frilosité des banques.
Ah, vous dites mais aucun risque quand ils disent Nicolas Sarkozy, quand il a ses comptes de campagne qui ne sont pas certifiés, c'est un risque quand même.
Oui, hein. Bien sûr. Mais nous, par contre, il n'y a pas le risque de non-remboursement. Donc c'est vrai qu'il y a des cas très exceptionnels où il y a un petit risque. Ce qui est bizarre, c'est que ce risque, il existe pour tous les autres candidats, mais aujourd'hui, ceux qui ne sont pas financés, c'est le Rassemblement National, ce sont les candidats du Rassemblement National. Donc la question de la Banque de la Démocratie, aujourd'hui, elle était sur la table par Emmanuel Macron, il l'avait promis, il s'y était engagé, et on est dans une situation...
Donc vous dites, oui, c'est ça qu'il faut, c'est bon.
Mais on le dit, mais malheureusement, pour 2027, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots.
Par exemple, les banques ne veulent pas financer.
Ça ne sera pas le cas. Donc moi, j'appelle...
Et un PGE, c'est facile, hein.
Oui.
Après, garanti par l'État ? Non, oui, ça fonctionne, c'est facile à mettre en place.
Mais oui, mais il faut que le gouvernement le veuille. C'est pas nous qui le mettons à l'ordre du jour, un tel débat. Mais bien entendu, ça serait la solution qui aujourd'hui, démocratiquement, est la plus simple et attendue par les Français. Parce que ça pose quand même une vraie question dans une des plus belles démocraties du monde, que le premier parti de France ne trouve pas de quoi financer, de quoi partir en campagne.
Merci beaucoup, Thomas Ménager, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.